Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin, Cédric Fuentes et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième jour de notre série spéciale destinée aux futurs bacheliers à un mois de l'épreuve de sciences économiques et sociales. Après avoir disserté sur la lutte contre les inégalités hier et la quête d'un développement vraiment durable lundi, ce sont les politiques de l'emploi que nous allons examiner aujourd'hui. Quelle réponse apporter au chômage ? Voilà une question qui a traversé la science économique, opposant les théoriciens néoclassiques aux keynésiens, les premiers défendant une politique de l'offre et les seconds une politique de la relance. Aujourd'hui, le débat s'articule autour de la nécessité ou non de rendre le marché du travail plus flexible et de répondre au chômage structurel par la formation. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Et pour nous accompagner dans cet exercice périlleux de la dissertation, nous accueillons autour de la table Guy Dreux, professeur de SES au lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour. Également avec nous Sandrine Foulon, rédactrice en chef du site d'Alternatives économiques. Bonjour. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho. Et bonjour à vous Guy Dreux et Sandrine Foulon, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Commençons par un point méthodologie avec vous Guy Dreux. Pour vous, la priorité face à un sujet, c'est d'abord de tenter de comprendre les attentes des correcteurs ?
Oui, c'est effectivement la question qui se pose pour les élèves comme pour les profs d'ailleurs, c'est de savoir ce que c'est qu'une bonne copie. Alors il me semble qu'une bonne copie, c'est une copie qui répond à une attente. Et alors, quelle est la forme que prend cette attente ? En l'occurrence, c'est un sujet. Mais évidemment, il faut avoir en tête le fait que la plupart des sujets qui sont proposés au niveau du baccalauréat pourraient très bien, en tout cas pour les sciences économiques et sociales, pourraient très bien être des sujets pour le CAPES, la GREG ou l'oral de l'ENA. Donc, qu'est-ce que c'est que l'attente ? En l'occurrence, c'est un sujet qui renvoie à un programme. Mmh. Donc il me semble que c'est très important de comprendre ça pour les élèves. C'est qu'ils doivent comprendre que d'une certaine manière, on ne leur pose pas véritablement la question. On leur pose une question qui leur permet de montrer qu'ils ont suffisamment de connaissances, qu'ils ont acquis suffisamment de concepts, de notions, de références théoriques ou pratiques ou de connaissances factuelles pour précisément poser un discours qui, évidemment, renvoie au sujet posé.
Et notamment peut-être de restituer les grands débats qui ont traversé et traversent encore la science économique.
Il faut qu'ils parlent comme des économistes. C'est que, je leur dis souvent, un lycéen coûte 12 000 euros par an. On en veut pour notre argent. On voudrait que les heures passées pendant 2 ans leur permettent de finalement de faire une différence par rapport à des bacheliers de S ou des bacheliers de L, c'est-à-dire d'être capable de présenter un sujet, de le construire avec un vocabulaire adapté qui est propre aux sciences sociales.
Alors justement, prenons un exemple concret. Voici l'intitulé de notre sujet du jour. Quelle politique pour l'emploi ? Point d'interrogation. Louis Drillon, de l'équipe d'Entendez-vous l'écho, est allé poser la question aux élèves de Terminal ES du lycée Molière à Paris.
Je pense que les politiques de relance et de rigueur ne sont pas forcément la solution au problème, car je pense que l'économie n'est pas une science, et du coup, il n'y a pas forcément de solution durable toujours à un problème économique. 0% de chômage, c'est impossible.
Je suis assez d'accord avec mon camarade. Et je pense que ouais, c'est en aidant les patrons qu'on aura plus d'embauches.
Faut aider les deux, parce que faut aider les patrons et en même temps les salariés. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Faut un mélange.
Voilà les premières réactions au sujet. Un commentaire, Guy Dreux, Sandrine Foulon, au propos que l'on vient d'entendre, qui nous permettent peut-être de commencer à poser les bases du sujet. Sandrine Foulon.
Alors déjà, 0%, effectivement, ils ont vos élèves, je ne sais pas si ce sont vos élèves, ils ont tout à fait raison. 0% de chômage, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle, vous savez, il y a le chômage frictionnel. Ça, on demande souvent aux élèves de définir ça, le chômage frictionnel, le chômage conjoncturel et structurel. Le chômage frictionnel, c'est ce qu'on pourrait appeler le chômage normal. normal. C'est-à-dire, vous perdez un emploi, vous gagnez un emploi, le temps que tout ça se mette en place, ça prend un certain temps. Donc, en fait, on parle de chômage à 3, 4, 5%, ce que les économistes appellent plutôt le plein emploi. Après, ce qui est très amusant aussi, c'est la réflexion sur la relance et sur la politique de l'offre ou de la demande. Effectivement, ils ont peut-être pas tout à fait tort. Il n'y a pas de chapelle, il y a deux grandes chapelles, mais on voit de plus en plus qu'elles s'interpénètrent et que c'est pas facile de résoudre les problèmes du chômage. On a eu des fameuses phrases sur contre le chômage, est-ce qu'on a tout essayé ?
Oui, ce qui est intéressant. On commence à entendre les deux chapelles qui se dessinent.
Oui, ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'ils perçoivent spontanément la présence d'un débat, d'une controverse ou d'une querelle ou d'une dispute, comme le signe de la non-scientificité de l'économie. Donc là, on voit bien qu'il y a toujours un travail à faire pour dire que, à l'intérieur des sciences humaines, l'économie est une science humaine, à l'intérieur des sciences humaines, il y a des débats, des controverses qui partent de représentations de l'économie qui sont complètement différentes, mais qui adoptent des logiques, des manières de penser qui, elles, sont reconnues, quels que soient les courants de pensée ou d'adhésion ou des choix politiques.
Et en même temps, la question de est-ce que l'économie est une science, c'est une question qui continue à faire débat
au sein des
économistes.
Exactement, les économistes se trompent beaucoup, il faut le savoir, il faut rester modeste. Et il y a une difficulté supplémentaire, vous avez des économistes comme Eric Ayer, par exemple, qui l'explique très bien. Vous pouvez faire la même politique, exactement la même politique, mais avec une croissance, ou en période de croissance ou en période de décroissance, et vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc il faut toujours rester effectivement très humble par rapport aux théories économiques.
Et alors sur notre sujet, quelle politique pour l'emploi, la première étape, Guy Dreux, c'est d'abord de définir les termes du sujet.
Oui, et de bien comprendre, au regard de ce qu'on vient de dire, des premières remarques, c'est que je trouve que le sujet est intéressant parce que précisément on comprend bien comment ça fonctionne la science économique. C'est-à-dire qu'il y a des représentations, on va passer un petit moment sur la représentation standard, dite présentation néoclassique, et puis la présentation keynésienne pour aborder d'autres, un petit peu plus tard, propositions plus contemporaines. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire percevoir aux élèves, et à ce moment de l'année, on espère qu'ils auront acquis au moins ça, c'est que il n'y a pas d'un côté des économistes qui se trompent, et puis de l'autre, des économies qui ne se trompent pas. Il n'y a pas d'un côté ceux qui sont méchants et d'autres qui sont gentils. Il y a simplement des économistes qui partent de différentes représentations de l'économie. Certains considèrent qu'il faut partir des comportements individuels et supposer un environnement qui correspond en gros à la concurrence pure et parfaite sur des marchés. Et
puis ça, c'est la pensée classique.
C'est la pensée classique qu'on va aborder. Puis évidemment, il y a d'autres économistes à partir de Keynes qui pensent que l'économie est un tout qui se construit à partir de grands agrégats. Et on a l'habitude en France de dire que c'est la logique du circuit. Et donc à partir de là, de façon très logique, les uns et les autres finissent par proposer des solutions qui sont non seulement différentes, mais qui sont parfois complètement contradictoires.
Et c'est comme ça qu'on va construire la problématique en même temps en proposant un plan qui serait éventuellement un plan chronologique ?
Oui, il me semble que ça peut. En tout cas, celui que vous nous avez proposé est tout à fait dans cet esprit-là. Ça me semble tout à fait intéressant d'aborder ce sujet comme d'autres, d'ailleurs. Non pas en faisant de l'histoire de la pensée économique ou de l'histoire des sciences sociales ou de la sociologie, mais quand même en gardant le fait que, évidemment, à certaines périodes, il y a des questions qui se posent d'une certaine manière, et à d'autres périodes, il y a des questions qui se posent d'une autre manière. Il y a des effets d'apprentissage, y compris dans le monde académique, heureusement.
Alors si on récapitule le plan que nous avons choisi ensemble, on va d'abord parler de la pensée classique. Ensuite, on va parler de la vision des keynésiens. Et enfin, on verra à quoi ressemble le débat aujourd'hui. Notre première partie donc, sera consacrée à la vision des économistes classiques. Pour commencer, à quoi renvoie le courant de pensée dit classique en économie ? Est-ce qu'il faudra que les élèves le définissent ?
Alors, ils le définissent. Ce qu'on appelle les classiques, c'est tout simplement donc un trio Smith-Ricardo-Say qui constitue au fond les premières élaborations, les premières constructions de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie de marché et des vertus du mécanisme de l'économie de marché.
Et les néoclassiques, c'est la formalisation
voilà,
de cette théorie.
Exactement. Les néoclassiques, c'est Walras, Marshall, qui, à la fin du 19e, début 20e siècle, prennent, au fond, ont un projet scientifique très ambitieux, qui est celui de véritablement inscrire l'économie dans une perspective de science dure. Et évidemment, le langage par excellence de la science, c'est le langage mathématique. Donc c'est là où on prend une voie, une l'ambition de mettre en équation, de formaliser des propositions et l'existence, et de mettre la finalité, c'est de mettre en évidence le fait que on peut prouver qu'il existe un équilibre général vertueux sur l'ensemble des marchés. Voilà.
Alors justement, Sandrine Foulon, après ces précisions absolument essentielles, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la conception justement du marché du travail que l'on trouve chez les penseurs classiques et du coup qu'on le retrouvera chez les néoclassiques?
En fait, les néoclassiques et les classiques considèrent que le travail, c'est un marché, c'est une marchandise comme une autre, ça s'échange sur un marché. Donc vous êtes salarié, vous allez proposer des heures de travail, et puis l'employeur va acheter vos heures de travail.
Donc c'est l'offre de travail versus la demande de travail.
Exactement. Et les néoclassiques considèrent qu'il faut justement une concurrence libre et parfaite. Enfin, il faut que le marché, que cette offre et cette demande se rencontrent. Et chacun considère qu'on va faire des arbitrages individuels. Le salarié, lui, va se dire, je renonce à mes loisirs, je renonce à mon temps libre contre un salaire. Et je pense qu'il y a un intérêt pour moi, il y a un intérêt financier, je vais pouvoir payer mon loyer, il y a aussi un intérêt à être inséré socialement, donc on va faire un arbitrage individuel, et donc plus le salaire, dans la théorie néoclassique, plus le salaire est élevé, plus les salariés seront enclins à travailler. Et inversement, de l'autre côté, les employeurs, eux, vont vouloir acheter ces heures de travail et vont être regardants, ils vont se dire, est-ce que ça va être rentable pour moi de recruter quelqu'un des heures supplémentaires, par exemple, de travail, est-ce que ça va me coûter très cher, quelle est la valeur ajoutée, est-ce que in fine, ça va générer de la productivité. Donc voilà, chacun, dans ce marché-là, chacun considère qu'il y a des arbitrages individuels. Sachant aussi que les néoclassiques considèrent que le travail est une donnée homogène, c'est-à-dire que les gens sont interchangeables. Mmh. Et bon, après, c'est quelque chose qui est assez critiqué, parce que si, par exemple, on nous demande autour de la table à tous de réparer une chaudière à condensation, je ne veux pas préjuger de nos compétences à tous, mais ça va être compliqué.
Je ne peux pas, je
voilà.
l'avoue.
Donc, en fait, voilà, et on verra peut-être plus tard qu'il y a des segmentations du marché du travail. Mais ça, c'est basiquement la pensée néoclassique.
Ce qui est intéressant, c'est de bien voir que si effectivement les uns et les autres, les employeurs et puis les salariés qui offrent du travail, ont manifestement des intérêts divergents et même opposés. Les uns ont envie de vendre leur travail le plus cher possible et les employeurs, très logiquement, ont envie de l'acheter le moins cher possible. Même si ce modèle-là semble un petit peu par trop simpliste, il faut que, au moins dans un moment du raisonnement, ou au moins à un moment donné de l'année, les élèves comprennent bien que il y a une certaine intelligence à poser les choses comme ça. Je veux dire par là que, en l'absence de connaissance des préférences de chaque individu, ces économistes se disent, supposons-les tous rationnels. C'est ça qui est intéressant. S'ils sont, alors, qu'est-ce que c'est que la rationalité pour un économiste? C'est très simple, c'est la capacité d'un individu à trouver son intérêt, à faire un arbitrage coût-avantage. L'utilité et la désutilité du travail. L'utilité du travail pour le salarié, c'est évidemment le salaire qu'il va pouvoir obtenir. La désutilité, c'est évidemment le renoncement au loisir. C'est un élément essentiel. Et puis, évidemment, l'employeur, excusez-moi, eh bien, l'utilité du travail, c'est la rentabilité de l'heure supplémentaire travaillée qu'on achète. bref, les profits qu'on va réaliser sur la dernière heure de travail et le coût de ce travail.
Voilà. Prenons un exemple concret, contemporain, pour l'économiste André Zilberberg. Le chômage des travailleurs non qualifiés est d'abord lié à un coût du travail trop élevé.
Quand on regarde bien qui est au chômage, on s'aperçoit d'une chose. C'est qu'il y a peu de chômage, disons parmi la population des 25-55 ans, qui sont d'un niveau de formation correct, voire élevé, voire moyen. Par contre, le chômage va toucher essentiellement des populations plutôt jeunes, plutôt pas qualifiées, et c'est sur ces populations-là que le coût du travail va avoir une importance. Tout simplement parce que si ces populations-là ont une productivité relativement faible, et s'il y a un coût du travail plus fort que la productivité, évidemment, vous n'allez pas embaucher ces personnes-là. Et c'est là le problème principal pour la population non qualifiée en France.
Sandrine Foulon, que pensez-vous de cette idée selon laquelle le coût du travail a pour conséquence le chômage des travailleurs peu ou pas qualifiés?
Voilà, André Zilberberg, c'est un tenant plutôt de l'école néoclassique. Il a raison quand il dit que le chômage, c'est aussi une question de qualification. Effectivement, les non-diplômés sont trois fois plus au chômage que les diplômés. Maintenant, c'est vrai que je dirais, pour les néoclassiques, le coût du travail est une obsession. C'est-à-dire que ils considèrent que tout vient de là. C'est-à-dire que si un individu acceptait de baisser ses prétentions salariales, il trouverait de l'emploi. Or, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, ce sont des idées qui sont critiquées. Mais dès lors, ça veut dire qu'effectivement, ça induit une politique, et on la voit, elle est assez dominante depuis une trentaine d'années. Elle est portée par des grands organismes internationaux comme l'OCDE, comme le FMI. Il faut déréguler le marché du travail, il faut l'assouplir, il faut surtout baisser le coût du travail pour qu'un employeur soit incité à embaucher.
Mmh. Alors ça, c'est l'héritage de la pensée classique.
Qui tient à une formule. On demande aux élèves de l'apprendre, donc je vais me permettre de l'indiquer. C'est que dans le modèle néoclassique, la limite de la demande de travail, c'est-à-dire de l'achat de travail, d'heures de travail par les entreprises, est déterminée par la productivité marginale du travail.
Alors expliquez-nous cela.
La richesse qui est produite. Alors marginale, parce qu'on raisonne, on n'a pas eu le temps de le dire, puis on le dira très vite, mais les néoclassiques sont aussi dits des marginalistes, parce que ils raisonnent sur les dernières unités achetées ou vendues, etc.
Donc on compare le coût marginal et la productivité marginale, et ça permet de savoir si une heure de travail est rentable ou non.
C'est ça, c'est là en fait, on va essayer d'établir quel est le... En fait, on suppose que l'entrepreneur achète une heure de travail tant que cette heure de travail lui coûte moins cher que ce que ça lui rapporte. Mmh. Et évidemment, ce que ça lui rapporte, c'est déterminé en gros par la productivité marginale du travail. Donc il y a cette espèce d'axiome, et c'est là où je reviens peut-être sur notre discussion préliminaire, c'est que si on veut en faire une science dure, on va finir par dire que le salaire est déterminé par la productivité marginale du travail. Sauf que, évidemment, il y a des millions de cas où on est incapable de mettre en relation les niveaux de salaire, c'est bien connu sur les traders par exemple, le niveau de salaire et la productivité marginale de leur travail.
Voilà. C'est l'un des paramètres. Et ce qu'on entend dans cette vision, c'est que le chômage est le résultat d'un choix rationnel des employeurs comme des actifs, c'est-à-dire que c'est un salaire trop élevé ou au contraire un salaire trop bas qui entraîne le chômage. C'est cette vision qui va inspirer la politique de l'offre. L'objectif de cette politique, Sandrine Foulon, c'est de favoriser l'offre, c'est-à-dire la production. Exactement. et cela passe par une baisse du coût du travail.
Oui, pour le dire simplement, il faut favoriser les tenants du néoclassicisme, c'est de dire il faut favoriser l'activité des entreprises parce que ce sont elles qui recrutent, donc ça va relancer de l'activité. Et il faut tout faire pour permettre à ces entreprises d'agir sur le marché le plus librement possible, c'est-à-dire un peu dans un idéal d'autorégulation. On n'a pas de règles. Et c'est pour ça que les néoclassiques classique, et c'est vraiment une pensée qu'on entend beaucoup ces dernières années, c'est de dire il y a, je dirais pas des ennemis, mais en fait il y a quand même des gros points noirs pour les néoclassiques, c'est le droit du travail, ce sont les conventions collectives, c'est l'État quand il vient réguler et qu'il vient mettre en place un SMIC par exemple, donc là ça vient fausser la concurrence, ça gêne un peu le marché, donc voilà, c'est tous des éléments qui normalement devraient permettre de baisser ou d'augmenter le coût du travail.
Sachant que dans le coût du travail, il y a à la fois les salaires et puis les cotisations sociales, donc on peut agir sur ces deux instruments, et l'un des effets attendus de cette politique, donc c'est une augmentation du recrutement et donc une diminution du chômage. Le problème, Guidreux, c'est que rien ne garantit que, par exemple, des baisses d'impôts vont conduire effectivement à des embauches.
Mais oui, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure, c'est que effectivement la relation tient de manière extrêmement logique tant qu'on a accepté les hypothèses de départ. C'est-à-dire que c'est des conclusions qui sont logiques au regard des hypothèses de départ. Simplement, quand on fait un va-et-vient, puisque en économie, on ne cesse de faire du va-et-vient entre des modèles théoriques et puis l'empirie, enfin, les données statistiques qui sont... Eh bien, on a du mal à faire cette corrélation. Alors, de temps en temps, ça marche, donc on est content, ou d'autres...
Bon. On peut citer l'exemple du CICE, Foulon, qui est assez parlant, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Oui, voilà, ce sont à peu près 40 milliards qui ont été redistribués aux entreprises, donc c'est un impôt, c'est-à-dire qu'on rend de l'argent, c'est calculé au niveau des bas salaires, donc c'était pour favoriser à la fois la compétitivité des entreprises, pour qu'elles soient compétitives, vis-à-vis des marchés des pays extérieurs.
On se souvient de Pierre Gadas qui a arboré des pins 1 million d'emplois.
Exactement, voilà. Et l'idée, c'était que si le coût du travail est bas, les entreprises vont être incitées à embaucher. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un comité de suivi de ce CICE, qu'aujourd'hui, on est assez déçu par les créations d'emplois. On estime que ça aurait permis, mais on n'est pas vraiment sûr, de sauver ou de recrutement ou de sauver des emplois, à peu près 100 000 emplois. Et donc, on se dit, c'est beaucoup d'argent public qui a été octroyé, et pour un résultat qui est quand même assez mince. Et si on regarde, si on prend une photo qui est quand même assez large, qu'il faut voir en France, c'est que les cotisations patronales, en 93 par exemple, ça représentait par an à peu près 600 millions d'euros. Aujourd'hui, on est tout confondu, hein, parce qu'il n'y a pas que le CICE, il y a des allègements de charges, par exemple les exonérations Fillon sur les bas salaires, ça représente 50 milliards. On est passé de 600 millions en 93 à 50 milliards aujourd'hui. Et ce qu'on voit, alors après on peut faire des corrélations, ce qu'on voit, c'est qu'on reste à des niveaux de chômage structurel qui restent quand même assez élevés en France.
On continue dans la même direction que ce qui a conduit à la crise. On devrait augmenter les salaires. C'est le seul moyen de relancer la consommation. C'est pas par le crédit, c'est pas en endettant encore une fois les gens qu'on arrivera à relancer une société de consommation où les gens qui consomment sont aussi ceux qui produisent. Il faut que, c'était Monsieur Ford qui avait lancé, Henry Ford qui avait lancé l'idée, il faut que mes ouvriers puissent acheter les voitures qu'ils produisent. La leçon a été oubliée et on ne va absolument pas dans la direction de reprendre les choses dans cette perspective-là.
Voilà, on vient d'entendre l'économiste et anthropologue Paul Jorion. À l'aide des propos que l'on vient d'entendre, Guidreux, comment faire la transition entre la conception néoclassique que l'on vient d'expliquer et une autre conception, celle de Keynes, qui fera l'objet de notre deuxième partie?
Ben, vous avez bien organisé le propos, puisque effectivement, ce que rappelle Jorion ici, c'est l'ambivalence fondamentale du salaire qui a été si bien décrite et théorisée et démontrée par John Maynard Keynes. Le salaire, c'est un coût, donc il est du côté de la désutilité du travail, si on est dans le modèle néoclassique. C'est un coût pour l'entreprise, mais évidemment, c'est une ressource, puisque c'est ce qui va alimenter la demande globale qui se manifeste et qui se présente devant les entreprises.
Donc si le coût du travail diminue trop, ce sera un obstacle à la croissance économique, c'est ça que dit Keynes.
En gros, chaque entreprise prise individuellement a intérêt à ce que les salaires dans leur entreprise soient les plus bas possibles, mais chaque entreprise a aussi tout intérêt à ce que dans toutes les autres entreprises, les salaires soient les plus élevés possibles pour qu'il y ait de la demande. Bon, c'est, voilà, c'est cette contradiction-là. La proposition fondamentale de Keynes, c'est de précisément de rappeler qu'il y a un rôle de la demande dans les équilibres macroéconomiques.
Et il le fait dans un contexte particulier, qui est le contexte de la crise des années 30, qui s'accompagne d'un chômage massif et durable, Sandrine Foulon.
Oui, exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant, il y avait cette pensée, justement, aussi dominante et néoclassique, où on disait qu'en gros, si une personne est au chômage, c'est parce que, justement, je le répète, elle a pas voulu baisser ses prétentions salariales, ce sont des choix individuels. Mais en fait, ça s'est heurté à une réalité, quand même, quand on voit que pendant la Grande Dépression, il y a un quart de la population active mondiale qui était au chômage. Il y a un keynésien qui s'appelle Franco Modigliani qui ironisait et qui disait « Ah bah dans les années 30, ce qui s'est passé, c'est une crise sévère de paresse contagieuse. » Non. Les keynésiens disent « Ce n'est pas la somme des égoïsmes individuels ou des arbitrages individuels, à la fois des salariés et des entreprises qui créent le chômage. C'est tout simplement tout ce qui se passe sur le marché des biens et des services. » Une entreprise, une idée forte des héritiers de Keynes, c'est de dire qu'une entreprise ne recrute que si elle a des bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire qu'elle anticipe, je crois que vous parlez de demande anticipée chez les économistes, c'est-à-dire on se dit si les carnets de commandes se remplissent, je vais recruter. Si on estime par exemple qu'il faut répondre au marché de la 4G ou la 5G, on va recruter des gens. Si en revanche on pense qu'il y a un marché qui décroît, eh ben on va pas recruter.
C'est l'idée que les entreprises ne créent pas d'emplois mais convertissent la demande en emploi qui est développée par Keynes.
Parfaitement, le coup de génie de Keynes, c'est de dire que on n'est pas face à un grand mécano, c'est qu'il y a une science humaine. Ça veut dire que il prend acte du fait que de la révolution, de l'émergence de la psychologie, de la psychanalyse, et il se dit que véritablement les attentes des agents économiques ont des effets réels sur le c'est que on n'est pas dans un univers uniquement de calcul rationnel où le futur serait précisément déterminé et prévisible.
C'est-à-dire qu'en période, vous en sortez parfaitement, en période de décroissance économique, les gens vont avoir tendance à épargner et non Exactement. Plus à consommer. Voilà. Et c'est comme cela que le chômage augmente. Mais alors, quelles sont les solutions qui sont préconisées par Keynes? Est-ce que augmenter les salaires peut stimuler la consommation? Parce que si les gens continuent à épargner, ça n'aura pas l'effet escompté, Sandrine Foulon.
Exactement, parce qu'il y a plusieurs leviers. Si vous voulez soutenir la relance, vous avez plusieurs leviers. Vous avez une politique effectivement fiscale, vous pouvez décider de baisser les impôts, vous pouvez effectivement après il faut voir comment les ménages vont faire s'ils épargnent ou s'ils consomment. Pour Keynes, les leviers les plus importants ce sont les ce qu'on appelle la politique monétaire et la politique la relance budgétaire. Si vous avez une politique monétaire par exemple, vous favorisez les taux d'intérêt bas, vous allez inciter les ménages et les entreprises à consommer. Au niveau européen par exemple, c'est la grande politique de ce qu'on appelle de quantitative easing qui a été lancée par Mario Draghi, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Et donc là, l'idée, c'est d'injecter des liquidités dans l'économie et de permettre à chacun de consommer.
Et puis, qui explique que les taux sont très bas aujourd'hui.
Exactement,
et
qui restent bas pour que les projets, les investisseurs aient envie d'investir dans des projets. Et puis, il y a là, ce qu'on appelle la relance budgétaire. Mais là, ça suppose de laisser filer les déficits. On a beaucoup connu par le passé, pendant les 30 Glorieuses, l'idée, c'était de faire des grands investissements publics, par exemple, construire des autoroutes. Donc voilà, c'était des bâtiments et ça a beaucoup relancé et ça a bien marché. Ça a bien marché pendant les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on pourrait faire d'autres investissements, plutôt dans la rénovation, enfin dans la transition écologique par exemple. Il y a des études qui sont faites et qui montrent que si on investissait, mais ça suppose d'oublier la règle budgétaire des 3% de Bruxelles, qu'il ne faut pas dépasser ce seuil-là. Mais voilà, ça pourrait effectivement créer des emplois. C'est une façon de relancer l'économie.
Donc les politique budgétaire et monétaire, ce sont les deux grands outils préconisés par Keynes pour favoriser la relance et l'investissement.
Oui, parce qu'il se tourne vers l'État, parce que l'État est l'agent qui seul peut renverser les anticipations. Ce que dit Keynes, que décrit très bien Keynes, c'est que s'il y a une logique de diminution des salaires, par exemple, dans le modèle dont on parlait tout à l'heure, où il faudrait un ajustement par une diminution des salaires. On va renforcer la restriction de la demande, et en renforçant la restriction de la demande, eh bien, on va en rendre plus pessimistes encore les entrepreneurs. Donc, il faut que quelqu'un donne un signal pour changer les anticipations, et c'est précisément la justification du recours à l'État par Keynes.
Ce que vous dites sur le pessimisme, c'est absolument essentiel, parce que ce qu'on a constaté rapidement, c'est que la réussite des politiques d'inspiration keynésienne dépendait de la confiance que leur accordaient à la fois les consommateurs et les investisseurs. Sandrine Foulon, cette question de la confiance, elle est centrale.
Ben oui, elle est centrale, parce que elle est centrale, mais dans toutes les politiques économiques. Si les entreprises, encore une fois, sont pessimistes et pensent qu'il n'y aura pas de raison de recruter et de développer leur activité, elles ne le feront pas, et ça va induire une espèce de cercle vicieux. Si au contraire, elles pensent qu'il faut investir, tout un mouvement vertueux, normalement, doit s'enclencher.
Or, ce qu'on a constaté à partir des années 70, c'est que cette confiance a commencé à s'éroder, en particulier après les chocs pétroliers de 73 et 79.
Exactement, mais ce n'est pas qu'une question de confiance. Comme vous le dites, il y a aussi des chocs extérieurs qui viennent, parce que l'économie, c'est pas un vase clos. Et c'est vrai que là où tout le monde était keynésien, parce que ça marchait très bien, puis c'est vrai qu'effectivement, dans les années 70, on s'est rendu compte que l'inflation a augmenté, qu'il y avait peu de croissance, et que surtout, il y avait un chômage de masse qui commençait à s'installer. On se disait, mais ça fonctionne plus, la machine est cassée. Donc effectivement, là, on a commencé à remettre en cause les théories keynésiennes. Mais c'est aussi parce qu'il y a des contraintes extérieures. Et le problème d'une relance, c'est que vous ne pouvez pas... Si vous faites vous faites un grand programme d'investissement, vous ne pouvez pas être non plus complètement sûr que ce sont les entreprises nationales qui vont en profiter. Ça peut être des entreprises internationales. Donc là,
c'est aussi le contexte de la mondialisation qui a beaucoup joué.
Si on se met tous à acheter, d'ailleurs c'est le cas, des iPhones et des produits, des smartphones qui sont produits à l'extérieur, ça n'aura pas un effet extraordinaire sur l'activité hexagonale et sur le chômage en France.
Et par ailleurs, les investissements ne se traduisent pas nécessairement par des créations d'emplois. Les entreprises peuvent décider d'investir dans leur appareil productif, par exemple, Guy Dreux.
Exactement. Et effectivement, au gré de la crise des années 70, l'apparition de ce qu'on appelle la stagflation, donc ce mélange de difficultés, à la fois du côté de l'inflation et d'une croissance très 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 faible, évidemment, il y a tout d'un coup un changement d'échelle d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a eu une remise en cause des logiques keynésiennes ou des politiques keynésiennes qui se sont faites parce que tout simplement ça ne marchait plus. Et ça ne marchait plus, on avait l'habitude finalement de dire que ça ne marche plus en situation d'économie ouverte. Voilà. En gros, les politiques keynésiennes fonctionnent pour des économies fermées, mais dès que le niveau d'échange avec le reste du monde devient élevé, eh bien, il y a toujours la possibilité, effectivement, que la distribution de pouvoir d'achat auprès des plus pauvres, des moins riches ou des plus modestes, peu importe les qualificatifs,
profite aux vendeurs de smartphones chinois,
voilà,
ou américains.
D'où dans les années 90, j'ai oublié la date exacte, mais d'un certain nombre d'économistes de dire que finalement les politiques keynésiennes pouvaient garder une certaine validité à partir du moment où elles pouvaient éventuellement être épensées et mises en œuvre à l'échelon européen. Voilà. Donc un des débats des années 90, c'était de se dire que si effectivement les politiques keynésiennes autour de la relance ne fonctionnaient plus ou plus aussi efficacement qu'elles avaient pu le faire auparavant.
Mais dans ce cas, il faut du protectionnisme. C'est ce que ça suppose.
Pas nécessairement. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que 80% du commerce des pays européens se fait avec des pays européens, donc ce qui signifie que l'efficacité d'une relance au niveau européen
pouvait fonctionner.
Oui, vous avez raison sur le degré d'incertitude. Par exemple, quand vous dites une entreprise peut choisir d'investir dans sa production, dans ses machines, c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai avec la révolution technologique. technologique qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Si une entreprise choisit aujourd'hui d'investir massivement dans l'intelligence artificielle, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur, en termes de chômage, sur les conséquences sur le chômage. Est-ce qu'on va avoir une destruction créatrice comme on a parlé, dont on a parlé par le passé avec Schumpeter? En gros, il y a des nouvelles technologies, ça détruit des emplois, mais ça en crée d'autres. Là, on ne sait pas. Et on a beau faire une relance keynésienne, on n'a aucune idée de ce que ça peut donner.
Alors là, on a un petit peu anticipé sur notre troisième partie, mais ce sera en guise d'introduction de la troisième partie. Effectivement, on va voir dans un instant comment dépasser cette opposition entre politique de l'offre et politique de la demande. On en parle dans un instant.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career.
Working Class Hero de John Lennon. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Et nous poursuivons nos révisions du bac SES en compagnie de Guy Dreux et de Sandrine Foulon. Suite et fin de notre dissertation sur les politiques de l'emploi. Après avoir examiné la vision des économistes néoclassiques, puis celle de Keynes, nous allons voir comment le débat s'est renouvelé à partir des années 70. Les États cherchent alors de nouvelles solutions, car le chômage n'est plus seulement lié à la conjoncture économique, il est devenu structurel. Qu'est-ce que le chômage structurel par opposition au chômage conjoncturel? Vous commenciez à en parler un peu plus tôt, Sandrine Foulon.
Le chômage conjoncturel, c'est tout ce qui relève de l'activité économique, hein, des variations. Par exemple, si tout d'un coup vous avez une flambée des cours du pétrole, vous allez avoir des impacts sur l'économie. Le chômage structurel, c'est ce qui relève d'un dysfonctionnement du marché du travail. Et ça, c'est ce que les économistes, justement Milton Friedman en tête, disent. S'il y a un problème de chômage, c'est que le marché du travail ne fonctionne pas bien. Il y a trop de rigidité du marché du travail, donc il faut aller faire ce qu'on appelle des réformes structurelles. Et quand on parle de réformes structurelles, en gros, c'est pour baisser le coût du travail, c'est pour déréguler le code du travail. C'est comme ça qu'il faut entendre réformes structurelles.
Donc c'est l'idée qu'il y a une inadéquation entre l'offre de travail des salariés et la demande des travail des entreprises, Guy Dreux.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir. Là encore, on retrouve. C'est pour ça que je trouve le thème intéressant à enseigner, c'est que on voit comment fonctionne la science économique. C'est-à-dire que on voit, c'est pas seulement le constat que des politiques traditionnelles, pour pas dire classiques, parce que sinon on va mélanger les choses, mais des politiques traditionnelles n'arrivent plus à fonctionner. Donc en fait, on a un changement d'environnement dans les années 70-80, où on a un chômage de masse et un chômage durable. Et on voit qu'on essaye des choses et que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Et c'est à la faveur de ce nouveau contexte qu'on va finalement soit élaborer des nouvelles théories, soit aller piocher dans des théories. Il était question de Friedman. Friedman, je crois, c'est son chômage naturel, je crois, c'est 65 ou quelque chose comme ça. Mais donc, il n'a pas attendu la stagflation des années 70 pour élaborer cette notion. Mais l'intérêt qu'on va porter à cette notion, justement, il faut attendre ce nouveau contexte. Donc on voit bien que dans un contexte nouveau, on va essayer d'élaborer des outils nouveaux ou s'intéresser à des outils qui n'étaient pas traditionnellement les plus adéquats. Donc effectivement, émerge progressivement cette idée qu'il faut s'intéresser, si un chômage durable, y compris dans le cadre de politique keynésienne ou dans le cadre de politique néoclassique, si le chômage perdure massivement, c'est qu'il doit y avoir, il faut s'intéresser au fonctionnement du marché du travail et précisément au dysfonctionnement éventuel du marché du travail.
Et cela dans le contexte où on repense peut-être les travaux de l'économiste Joseph Schumpeter que vous citiez, Sandrine Foulon, et notamment le concept de destruction créatrice qui va renouveler l'approche du chômage.
Oui, bah c'est-à-dire que effectivement, Schumpeter disait que, je me répète, mais qu'en fait, des emplois pouvaient être détruits, notamment des emplois faiblement qualifiés, mais que d'autres allaient émerger. Par exemple, en 30 ans, la France a perdu 2 millions d'emplois industriels, mais on a vu qu'il y avait une bascule dans les services, hein, c'est-à-dire que il y a d'autres métiers qui se créent. Donc effectivement, ça pousse pour ce dont on a parlé, c'est-à-dire des réformes structurelles, il faut changer le comportement du marché.
Oui, l'intérêt finalement porté à Schumpeter dans les années 90 et depuis, c'est que effectivement il accompagne ce mouvement où on a envie de regarder un petit peu plus précisément ce qui se passe sur le marché du travail. Sandrine tout à l'heure disait qu'il y avait au fond un des défauts du modèle néoclassique pur ou peu importe, c'était de supposer l'homogénéité du travail. Le travail n'est pas homogène, il y a des segmentations. Et donc, on va progressivement s'intéresser à ces segments. Alors, ça peut être par niveau de qualification, ça peut être par secteur d'activité, etc. Mmh. Et du coup, effectivement, l'analyse de Schumpeter fonctionne relativement assez bien. C'est-à-dire cette idée où elle encourage, effectivement, à percevoir le phénomène du chômage comme étant c'est-à-dire que si on arrive à percevoir et à faire comprendre à la population que la croissance économique, c'est pas un grossissement permanent des activités telles qu'elles sont, c'est une transformation permanente des activités, et donc que à charge pour la population elle-même de suivre le rythme de ces transformations. Et ce qui va justement émerger dans ce nouveau contexte, c'est le fait que chaque individu doit de plus en plus prendre en charge sa capacité à être employé, on appelle ça l'employabilité.
La responsabilité est mise sur le dos des individus, mais s'ils peuvent être aidés en cela par l'État, et c'est le rôle aussi de la formation. Il y a cette idée que la formation doit permettre de lutter contre le chômage, Sandrine Foulon.
Oui, exactement. Ça c'est effectivement là, par exemple, on a ce qu'on appelle un PIC, un plan d'investissement dans les compétences de 15 milliards d'euros qui a été annoncé pour justement que les personnes les moins employables, enfin les plus éloignées de l'emploi, trouvent un travail. Donc effectivement, oui, il faut faire un effort de formation.
Voir former les travailleurs qui sont en situation d'emploi.
Mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est ça le problème aussi, c'est que dans les politiques, parfois on choisit une population au détriment d'une autre. Or en fait, on voit que par exemple dans des pays, les pays nordiques notamment, ils ont réussi aussi à lutter contre le chômage parce qu'ils avaient formé tout le monde. Ils n'ont pas ciblé simplement les seniors ou les jeunes. Donc en fait, effectivement, la formation, c'est un levier extrêmement important. Mais il ne faut pas non plus complètement mythifier la formation, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on nous parle beaucoup de 200 000 emplois qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire, c'est les chiffres de Pôle emploi qui expliquent, en gros, qu'entre 200 000 et 300 000 offres sont pas pourvues, faute de candidats. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça, parce que justement, il y a un problème d'appariement entre l'offre et la demande, entre les compétences requises et offertes. Mais si par miracle on arrivait à former ces 200 000 personnes ou ces 300 000 personnes,
ce sont des chiffres sans commune mesure avec les chiffres du chômage.
Si vous prenez toutes les catégories A, B, C, D, E, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas du tout travaillé jusqu'aux gens qui sont en formation ou en emploi aidé, vous avez plus de 6 millions de chômeurs en France. Donc en fait, c'est très bien. Bien sûr qu'il faut former les gens, et il faut les former. Il faut former les chômeurs, il faut former les gens en poste, il faut former les jeunes. Il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on appelle la formation initiale et continue, mais ça résout pas tous les problèmes.
Ce que vous voulez dire, c'est que la focale est parfois mise sur ces 200 000 oui. avec cette idée, on se souvient de la phrase d'Emmanuel Macron qui disait qu'il fallait traverser, suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. C'est bien cela, Guy Dreux.
Oui, traverser la rue, c'est peut-être aller dans un centre de formation quelconque. Ce qui est intéressant, c'est que, puisqu'il a été dit que dans ces nouvelles approches des politiques de lutte contre le chômage, il y a effectivement deux grands axes stratégiques, la formation et la flexibilité du marché du travail et la flexibilisation des conditions de travail. Il y a un effet quand même commun. C'est-à-dire, alors c'est pas forcément voulu ou désiré, même si on peut en discuter, mais il y a un effet commun, c'est que il y a une tendance à l'individualisation de la situation et à une responsabilisation de la situation. Je veux dire par là que quand on le rêve pour une entreprise, c'est évidemment d'avoir une adéquation la plus immédiate possible entre sa capacité à produire et les évolutions de la demande. Ça paraît assez logique. Dans des métiers saisonniers, vous n'embauchez pas les personnes à l'année. Bon. Donc, cette volonté de qu'on appelle flexibilité de travail, cette volonté de faire la capacité de production aux variations de la demande, traditionnellement, ce travail-là était assumé par l'entreprise. Ça jouait comme une espèce de transistor, si vous voulez. Bon, l'entreprise assumait le fait d'avoir un niveau de formation, d'emploi relativement stable dans l'année, et s'arrangeait, soit par des délais, soit par tout un tas de choses, ou des stocks, supportait ce décalage qu'il pouvait y avoir.
Sauf que la révolution technologique a changé la donne.
Voilà. Maintenant, on fait reposer sur les individus eux-mêmes cette réalité-là de variations plus ou moins importantes d'une demande qui s'exprime. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, par exemple, de façon très symbolique, le fameux contrat zéro heure au Royaume-Uni, où là, précisément, on revient à une forme très ancienne de l'embauche.
Sur cette question de la flexibilité, je voudrais vous faire entendre l'ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz.
Il faut recréer d'une flexi-sécurité à la française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner de la flexibilité à plein d'entreprises qui ont besoin, en effet, de ces contrats courts parce que ils n'ont pas de visibilité, parce qu'ils ont besoin d'un coup de main sur un week-end, sur un soir. Et ça, c'est très important, tout en sécurisant, en effet, un peu mieux, certains droits de nos salariés. C'est clair, c'est de la flexi-sécurité. Les pays du Nord le font très bien. Le Danemark le fait très bien. Donc, en fait, regardons ça. Nous allons faire des négociations avec les partenaires sociaux. Nous sommes très déterminés à faire des réformes structurelles pour que les gens qui sont au chômage longue durée, qui sont en difficulté, puissent retrouver plus facilement du travail.
Voilà. Faut-il rendre le marché du travail plus flexible pour l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz? La réponse est oui. Mais alors, que désigne cette fameuse flexi-sécurité, ce modèle développé au Danemark? Ce qu'on dit beaucoup en France, c'est que on a la flexibilité, mais on n'a pas la sécurité. C'est en tout cas ce que disent les détracteurs des politiques et d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est ce que disent aussi les Keynésiens. C'est vrai. Enfin, c'est effectivement un constat. Le Danemark, effectivement, c'est un modèle qu'on a beaucoup vanté et qui fonctionne bien, mais il tient les deux bouts. C'est-à-dire qu'on considère que, par exemple, vous pouvez licencier facilement une personne. Mais une fois que cette personne tombe à l'eau, on va l'équiper, on va lui donner tout ce qu'il faut, les bouées, le gilet de sauvetage, pour qu'elle revienne vite fait à la nage sur le rivage et qu'elle reprenne un travail. Et
concrètement, surtout, ce sont des droits au chômage particulièrement longs.
Exactement, longs, un accompagnement, une formation dont vous parliez tout à l'heure. Donc en fait, on a les deux bouts de la chaîne. Or effectivement, quand on parle de flexi-sécurité dans certains pays, on oublie de marcher sur les deux jambes de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple une facilité de licenciement, c'est ce qui s'est passé, enfin, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les ordonnances Macron, par exemple, quand on parle de barémisation des indemnités prud'homale. On peut licencier plus facilement selon des barèmes. Donc là, on facilite du côté de l'entreprise. On dit, bon voilà, vous pouvez licencier plus facilement. Mais de l'autre côté, on attend à la fois de la formation et un accompagnement au niveau du chômage. Et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un grand débat, mais ça se discute, est-ce qu'il faut durcir les conditions du chômage ? Donc voilà, c'est en ça que le Danemark a peut-être réussi un équilibre que d'autres pays ne sont pas parvenus à faire.
Il y a cette idée que les droits au chômage ne motiveraient pas les salariés à retrouver un emploi. C'est l'argument souvent invoqué, Guy Dreux.
Oui, là, c'est effectivement des travaux assez assez contemporains sur tous les risques de désincitation au travail, puisque au fond on essaye de construire une macroéconomie à partir de d'analyses micro, donc ce que peuvent être de mieux comprendre les motivations des individus. Et dans cette tendance générale, je pense qu'on l'a décrite suffisamment, évidemment il y a un intérêt qui est porté, je dis pas qu'il est forcément très juste, mais en tout cas qui est porté à au possible effet pervers de dispositifs de la sorte. Mais en disant ça, là encore, il faut revoir comment on fait de l'économie. On retrouve des vieux propos et des vieux principes qu'on peut lire chez Bastiat dans les années 1830-1840, qui avertit le législateur des effets pervers possibles. Donc il y a une vieille littérature.
Donc voilà. Donc,
là encore, on retrouve systématiquement à l'aune de contextes particuliers, on va s'intéresser soit on va générer des travaux nouveaux, des recherches nouvelles, ou on va essayer de retrouver des pensées plus anciennes, mais qui trouvent un éclairage ou trouvent à éclairer le nouveau contexte.
Ça, il y a les travaux de Johanna Marinescu. Ouais. L'économiste Michel Husson a fait une très bonne recension de toutes ses études, parce que c'est extrêmement bien documenté. Parce que c'est vrai que l'idée, elle est quand même, c'est vraiment un débat qui traverse tout le monde. On se dit, ah, mais les chômeurs, ils ont des allocations, finalement, c'est tranquille, ils restent chez eux, dans leur canapé, pourquoi ils iraient travailler? C'est vraiment quelque chose qu'on entend de manière récurrente. Or, ça a été étudié. On a vu, par exemple, si vous durcissez les conditions d'accès au chômage, on voit ce qui se passe. Et ça, c'est ce dont on se rend compte globalement, c'est que bien sûr, vous pouvez avoir si vous avez 2 ans de chômage comme aujourd'hui en France, vous décidez tout d'un coup que vous n'avez plus que 1 an. Vous allez évidemment être incité à trouver plus facilement, plus vite un travail. Sauf que l'effet pervers, c'est que vous allez avoir des gens qui sont fortement qualifiés. Le chômage, c'est une file d'attente. Donc vous pouvez changer les places dans la file d'attente, c'est-à-dire que vous allez accepter un boulot pour lequel vous êtes surqualifié et vous allez le prendre à quelqu'un qui est sous-qualifié. Mmh. Donc vous n'allez pas nécessairement réduire le chômage. Et ça, c'est extrêmement bien étudié et c'est très intéressant.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, Sandrine Foulon, parce qu'effectivement, la question que cela pose, c'est la question de la qualité de l'emploi et ça nous permet peut-être de tirer un premier bilan de ces mesures visant à flexibiliser le marché du travail, puisque par exemple, ce qu'on a pu entendre aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est que certes, le chômage avait diminué, mais au prix d'une hausse importante des travailleurs pauvres.
Mais oui, bien sûr, parce que la flexibilité, vous avez parlé tout à l'heure des contrats zéro heure, il y a les mini-jobs en Allemagne, nous on a pléthore de CDD, de contrats à durée déterminée, qui sont extrêmement flexibles selon les secteurs d'activité et autres. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous allez peut-être sortir des gens des chiffres du chômage, des statistiques, ils vont accepter ces petits boulots, comme on les appelle, mais au prix de la qualité de l'emploi, au prix d'une pauvreté laborieuse, mais effectivement, mécaniquement, vous allez faire baisser vos chiffres du chômage.
Et peut-être, une précision. Sûr. Évidemment, je resterai dans le cadre du programme scolaire, mais c'est précisément donc ce qui apparaît sous le vocable de halo du chômage ou sous-emploi. Ouais. J'invite les élèves à revoir leur dictionnaire pour.
Le sous-emploi, en gros, c'est juste le fait d'être en temps partiel subi, c'est-à-dire et le halo du chômage, c'est tous les gens qui sortent des statistiques de l'emploi. Par exemple, aux États-Unis, on dit que les États-Unis sont à 4%. Si tout le monde était le marché de l'emploi et on parle des gens qui sont pas découragés, on serait plutôt aux alentours de 8%. Mmh. C'est ça le halo du chômage.
Alors, on arrive au terme de cette émission et en même temps de cette dissertation. Quelle conclusion est-ce que on pourrait donner aux élèves élèves par rapport à cette question des politiques de l'emploi et aux différentes lignes de fracture qu'on a pu dessiner?
Il me semble que... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un fan de l'ouverture ou de finir par une question, je ne sais quoi, mais il me semble quand même que quand on prend conscience de ce mouvement qu'on a essayé évidemment très rapidement de présenter, il me semble qu'il y a quand même une interrogation permanente, qui est tout simplement quelle est la place du travail dans la distribution des richesses. Il me semble que, par exemple, aujourd'hui, le fait que on ait des interrogations sur le revenu universel, c'est un symptôme d'une société qui prend conscience qu'elle a du mal et qu'elle pourra probablement, ou qu'elle pense que probablement ça va durer encore très longtemps, avoir du mal à offrir un travail et donc une rémunération à l'ensemble de la population. Donc peut-être, voilà.
On pourrait conclure avec le revenu universel, Sandrine Foulon.
Oui, on peut conclure avec le revenu universel.
En tout cas, la question qui est posée par le revenu universel sur le lien entre activité et distribution de richesses, par exemple.
Oui, moi je les inviterais aussi à être curieux. Je ne sais pas si c'est dans le programme, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles formes d'emploi dont on parle beaucoup moins. Là, on est surtout sur des schémas très classiques de salariat. Il y a tout le hors-salariat avec aujourd'hui tous les auto-entrepreneurs. Exactement. Donc ça, quand on parle de flexibilité, on oublie un peu celle-là, qui est qu'il y a des gens qui travaillent hors salaire, qui sont dans des relations contractuelles, commerciales. Et ça, c'est une énorme évolution avec les révolutions technologiques. Je pense qu'ils devraient aller regarder de ce côté-là.
Et ben, c'est particulièrement complet. Un grand merci à tous les deux.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une étude réalisée par la Commission européenne qui envisage de taxer le kérosène dans le secteur de l'aviation.
Absolument, si cette étude n'a toujours pas été rendue publique, un article du Monde nous apprend néanmoins qu'elle a été remise en mai 2018 à la Direction Générale des Transports de la Commission, avec pour objectif de réévaluer la directive sur la taxation de l'énergie pour voir si une mise à jour était nécessaire. Il faut dire que depuis 1944 et la Convention internationale de Chicago, le secteur aérien bénéficie d'une exemption de taxes sur le carburant. À l'époque, l'objectif est clair, il s'agit de favoriser l'essor du trafic aérien et d'encourager les échanges au lendemain de la guerre. La convention est donc adoptée par les 191 États membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Une convention largement critiquée aujourd'hui du fait de la place croissante de l'aviation dans l'émission de gaz à effet de serre.
Oui, 75 ans après l'adoption de cette convention, l'exemption fiscale du kérosène apparaît comme une incongruité absolue, alors que le transport aérien pollue par personne et par kilomètre parcouru, deux fois plus que la voiture et 40 fois plus que le train. Difficile de comprendre dans ces conditions que l'on exonère encore le kérosène de la taxe sur la consommation de produits énergétiques et de la TVA. D'autant que si le transport aérien n'est responsable aujourd'hui que de 3% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, les projections de l'Association du transport aérien international prévoient un doublement du trafic d'ici à 2036 et en 2050, les émissions du secteur pourraient atteindre 20% des émissions totales, si rien en effet pour inverser la tendance.
Le document de la Commission propose donc d'introduire un prélèvement de 33 centimes d'euros par litre de carburant afin de réduire le trafic aérien.
Exactement, comme l'explique Le Monde, l'objectif d'une telle taxe est on ne peut plus clair. La hausse du prix du carburant doit se répercuter sur le prix des billets, entraînant une baisse de la demande et des vols du même ordre. Si l'on prend l'exemple de la France, une telle taxe permettrait de réduire de plus de 9% les émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent du retrait de 850 000 véhicules sur nos bonnes routes françaises. Mais en attendant l'adoption encore toute hypothétique d'une telle directive, certains estiment, jusque dans les rangs de la majorité, que le gouvernement devrait prendre les devants et mettre en place une taxation du kérosène au niveau national.
D'autant que si les vols internationaux restent aujourd'hui protégés par la Convention de Chicago, rien n'interdit de taxer les vols intérieurs.
Exactement, ce qu'ont d'ailleurs déjà fait des pays comme le Brésil, le Japon, la Norvège ou encore les Pays-Bas. Alors que la crise des gilets jaunes a été déclenchée en partie par la hausse du prix du carburant, la non-taxation du kérosène apparaît comme une étrange particulièrement cynique. Comment comprendre en effet que l'on augmente le coût des petits trajets quotidiens quand le prix des vols Paris-Nice ou Bordeaux-Lisbonne défie toute concurrence? D'autant que l'argent dégagé pourrait permettre de financer d'autres modes de transport plus doux comme le train et permettre la réimplantation des petites lignes sinistrées par des années d'austérité budgétaire. Plusieurs députés de La République En Marche ont donc proposé une série d'amendements à la loi mobilité, actuellement en lecture au Parlement, afin d'y introduire une taxation sur le kérosène. Autant d'amendements rejetés un à un par le gouvernement au motif que la question devrait être traitée au niveau international, si ce n'est mondial, pour ne pas pénaliser les entreprises françaises. Toujours et encore les mêmes logiques visant à opposer artificiellement l'économie et l'écologie.
Pleased to meet ya. She drive me crazy. She drive me crazy. Gonna take her for a ride on a big jet plane.
On se quitte avec Angus and Julia Stone, Big Jet Plane. Merci beaucoup Guy Dreux et Sandrine Foulon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, on se demandera à qui profite l'internationalisation des échanges. À nos côtés, pour venir à bout de l'épreuve composée, deux professeurs de SES, Arnaud Parianti et Philippe Vatrelot. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Can I take you higher?